Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Voilà, nous sommes actuellement au milieu de notre série sur la guérison divine et la bonne santé, et nous avons tous besoin de encore plus de bonne santé. Personne, je ne connais personne qui dit j'ai trop de santé, j'ai trop en forme. Et je connais par contre une personne qui a dit ça. Elle dit je suis tellement en forme que c'est pas normal. Et elle a ouvert sa bouche et elle a eu un cancer par la suite. Et elle s'appelle Madame Dodie Austin, la femme du pasteur John Austin. Mais gloire à Dieu, elle a aussi obtenu sa guérison que Jésus a acquise pour elle, et elle a écrit un livre, Guérie du cancer. Mais à un moment, elle était dans une situation où elle ne prêtait pas attention à ce qui sortait de sa bouche. Et donc, il y a un problème de son. Et à un moment, donc, elle n'a pas fait attention, et à ce moment-là, le diable a profité de l'occasion. Mais nous ne voulons lui donner aucune occasion, et nous voulons au contraire recevoir pleinement tout ce que Jésus a prévu pour nous, et il nous a fait une grande provision de bénédiction. Donc, nous avons établi un certain nombre de choses. Nous avons vu la volonté de Dieu pour notre bonne santé. Nous avons vu l'origine de la maladie. Nous avons vu l'œuvre de la rédemption. Nous avons vu un certain nombre d'obstacles qui nous empêchent de recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Et donc, aujourd'hui, notre message fait suite un message que j'ai fait sur la puissance du nom de Jésus tel que Dieu révèle son nom, et nous voulons voir aujourd'hui la guérison par la foi dans le nom de Jésus, et nous voulons vraiment fixer nos regards sur ce nom de Jésus et de réaliser à quel point c'est important pour notre vie, que c'est pas juste un nom banal. Nous avons des noms de toutes sortes, tous, et des fois les parents ont donné un nom parce que le grand-père s'appelait comme ça, ou parce que ça sonne bien, ou pas, pour toutes sortes de raisons, ou parce qu'il y avait quelqu'un dans un film qui s'appelait d'un certain nom, mais nous avons besoin de réaliser à combien le nom de Jésus est un nom qui est différent de tout autre nom, et quelle est vraiment la puissance qui est dans ce nom. Comment ce nom peut s'appliquer à notre vie. Donc, la première chose que nous allons voir, c'est la foi dans le nom. Et nous allons regarder, pour commencer, par les évangiles. Et je vous avoue que pendant de nombreuses années, j'avais une idée un peu floue de la façon dont les disciples opéraient les miracles et les guérisons. C'était un peu flou, je ne m'étais jamais posé la question comment ils avaient fait. Je parle des disciples du temps du ministère terrestre de Jésus, quand il a envoyé d'abord les 12, ensuite les 70. D'accord ? Et dans Luc 10, j'ai un petit titre qui dit « Mission des 70 disciples ». Alors, il nous est dit au verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. D'accord ? Dans un autre passage parallèle, il nous est dit que Jésus leur a donné l'autorité et la puissance. Donc des fois, quand on entend ce mot autorité et puissance, on peut penser, et c'est vrai, à un transfert de cette force de Dieu. Vous savez qu'il y avait une force de Dieu en Jésus. Quand la femme a touché le vêtement de Jésus, Jésus a dit, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Donc il y a une certaine situation où il y a cette force de Dieu, cette puissance de Dieu qui habite corporellement en quelqu'un et qui peut être transférée. Et donc on peut imaginer que cette puissance de Dieu était dans les disciples. Mais ici, d'après ce passage, on voit quoi ? On voit qu'ils ont utilisé le nom. Il n'est pas dit qu'ils étaient muets. Il n'est pas dit qu'il se produisait quelque chose de surnaturel que les gens ne s'expliquaient pas. Peut-être certains ont l'habitude de ça, peuvent penser que c'est une sorte de magie ou de sorcellerie. Mais non, c'était simplement l'utilisation du nom. Vous réalisez à quel point, j'espère que vous allez réaliser après ce temps que nous avons passé ensemble aujourd'hui, à quel point c'est une bénédiction pour nous d'avoir ce nom. Ce n'est pas quelque chose juste pour nous démarquer du reste du monde et dire voilà, nous sommes les chrétiens, on appartient à Christ, on porte le nom de chrétien ou on appartient à Jésus. C'est plus que ça. Ils utilisaient littéralement le nom de Jésus comme une arme, comme une force, comme quelque chose qui agissait dans le domaine spirituel et par conséquence dans le domaine naturel et matériel. Donc Luc 10, 17. Et si nous regardons dans l'évangile selon Marc, au chapitre 9, versets 38 à 41. Comme nous allons prendre du temps pour aller plus profondément dans certaines choses, les enseignements de la parole de Dieu, nous allons donc voir plus de versets bibliques. Je ne suis pas en train en ce moment de simplement prendre un verset biblique et après de développer, d'illustrer, etc. Je suis en train de vous amener à fixer vos regards sur la parole. Et donc on regarde énormément de choses qui se sont passées dans la Bible et qui sont décrites pour nous. Alors, j'espère que j'ai le bon passage. Oui. Marc, 9, 38. Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. » Vous avez tous remarqué ?« Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus répond, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom, tout le monde souligne dans sa Bible, en mon nom, puisse aussitôt après parler de moi, mal de moi. » Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc la foi dans le nom de Jésus, non seulement elle marche pour ceux que Jésus a spécifiquement envoyés en disant « Allez, faites ceci et je vous donne mon nom », mais même d'autres se sont aperçus, il y a de la puissance dans ce nom. Moi aussi, je peux le faire. Et ils l'ont fait. Et Jésus n'a pas dit, non, c'est pas bien, parce qu'il n'est pas avec nous, il n'a pas le droit. Donc, il nous faut croire au nom. Nous avons à fixer notre foi sur le nom. N'ayez pas peur, de fixer votre foi sur le nom de Jésus ne va pas vous détourner de la personne de Jésus. Vous n'êtes pas en train de basculer dans l'idolâtrie, parce que le nom de Jésus et la personne de Jésus ne font qu'un. Il n'y a pas de différence. Plus vous connaissez du nom de Jésus, plus vous découvrez qui il est. Et plus vous découvrez la personne de Jésus. Plus vous connaissez la personne de Jésus, plus vous réalisez la puissance qui est dans ce nom et comment vous pouvez l'utiliser. Nous sommes donc appelés à croire en ce nom. Dans Jean 3, verset 18, il nous est dit... Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas de détail dans la Bible, il n'y a pas de hasard non plus. Si la parole de Dieu précise parce que quelqu'un n'a pas mis sa foi dans le nom, il sera jugé. Et au contraire, s'il met sa foi dans le nom, il ne passe pas en jugement. Donc, vous voyez, ce n'est pas une petite chose, hein. C'est quand même assez important. La vie est dans le nom. Toujours dans l'évangile de Jean, je passe au chapitre 20, verset 31. « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Vous voyez, il n'est pas dit en lui. Mais pourtant, nous savons que la vie, elle est en lui. Mais la Bible précise en son nom. Afin que vous croyiez en son nom. Donc, développez votre foi. Fixez vos regards sur Jésus et en même temps aussi sur ce que dans la Bible, le nom de Jésus a pu produire. Et ce n'est pas peu de choses. Je vous encourage maintenant à prendre un passage qui nous servira de support. Et c'est une illustration, peut-être c'est une histoire bien connue pour certains, mais moi je ne me lasse pas de lire cette histoire dans Actes 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, voyez ce que le nom produit. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Voyez, peu importe le nombre d'années que cet homme était malade. Si quelqu'un a eu un accident, s'il a été blessé d'une façon ou d'une autre, il faut guérison, opération, il faut rééducation. Ça ne se fait pas d'un instant à l'autre. Mais ici, dans la parole de Dieu, ce n'est pas une fable. Ça s'est vraiment passé comme ça. En un instant, à cause du nom de Jésus. À cause de rien d'autre que le nom de Jésus. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ?» Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous aviez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Écoutez bien, verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc on voit les deux choses. Il y a les deux aspects. La foi en son nom et la foi en lui, dans la même phrase. Les deux sont liés. Donc nous avons cette illustration, et pour moi c'est précieux. On n'a pas besoin de chercher 36 autres illustrations. On a une belle histoire dans la Bible qui en plus est vraie et qui nous montre la puissance qui est dans le nom. Donc Jésus a enseigné ce que beaucoup de gens connaissent sous le titre du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Nous avons besoin de ne pas prendre à la légère le nom. Déjà les noms de Dieu en général, mais même plus que ça. Honorons le nom de Jésus. Est-ce que vous honorez? Honorer, c'est quelque chose, un mot qui est bien particulier, c'est-à-dire on le place sur une position élevée. On a une échelle de valeurs, il y a des choses qui sont honorables, d'autres qui sont méprisables, et nous devons donc réaliser qu'est-ce qui se passe en nous. Qu'est-ce que ça veut dire le nom de Jésus? Est-ce que c'est devenu un nom qui est banal? On connaît Jésus, on est converti depuis je ne sais combien d'années, on lui appartient, et on a perdu cette notion de ce que ça représente pour nous, Jésus. Est-ce qu'on le dit à la légère? Respectons le nom de Jésus. Aimons-le et louons-le. On peut louer le nom de Jésus aussi. Et maintenant, puisque nous avons parlé de la foi qui est dans ce nom, nous devons prendre un temps pour considérer maintenant la prière que nous pouvons faire dans le nom de Jésus. C'est la prière telle que nous l'avons apprise pour nous chrétiens. Je ne parle pas maintenant du Notre Père, je parle de la façon que Jésus a dit que nous devons prier. Comment est-ce que nous devons prier? Est-ce que vous le savez ça? Je peux vous poser la question. Comment, quelle est la règle simple de prier pour les chrétiens? On demande au Père dans le nom de Jésus. C'est comme ça qu'on est. On ne doit pas prier pour l'amour de Jésus, on ne doit pas prier en pleurnichant, en demandant à Dieu d'avoir pitié de nous, on ne doit pas prier en répétant plein de choses, en espérant que ça va tellement casser, entre guillemets, les oreilles de Dieu ou les pieds, qu'il en aura assez, il dit bon, bah, allez, vas-y. Parce que certains ont pensé que c'était ça. Même en prenant des textes bibliques, vous savez, le juge Hinnick, il nous a dit, voilà, il y avait une femme qui était pauvre, etc. Un juge, il était Hinnick, ça veut dire que bah, il faisait tout sauf rendre la justice, hein. C'est quand même fort pour un juge. Et il nous a dit, mais parce qu'elle a beaucoup, beaucoup insisté, alors il lui a finalement fait justice. Et certains ont cru, parce que Jésus a dit, vous de même, ils ont cru, oui, nous aussi, on doit insister comme ça auprès de Dieu. Non, Jésus a simplement voulu illustrer le fait d'insister, de persévérer. Mais il n'a jamais voulu insinuer que Dieu allait se laisser fléchir et qu'il allait être un petit peu gâteux et finalement céder. Et, vas-y, prends ce que tu voulais et laisse-moi tranquille. C'est une caricature de Dieu. C'est complètement à côté de la réalité telle que nous pouvons connaître Dieu. Donc, nous avons un modèle qui nous est donné, nous pouvons prier dans le nom de Jésus. Et Jean 16, Jean nous a donné beaucoup de révélations sur le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait cette intimité et cette proximité avec Jésus. Il avait celui qui avait le plus reçu des 12 disciples au niveau de la proximité de Jésus. Il avait compris ce lien entre le nom et entre la personne, et il a pu nous donner un certain nombre de choses qui sont précieuses pour nous maintenant. Jean 16, 23-24, il dit « En ce jour-là », ça veut dire « Il viendra un jour, le jour quand je serai parti, quand le Père aura envoyé le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer ?» Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Ça veut dire, vous ne serez pas tout le temps dépendant de moi, Jésus, comme intermédiaire au Père. Mais il a dit, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ça veut dire, vous pouvez avoir un accès, vous pouvez venir directement au Père en mon nom. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il y avait ce qu'on appelle des fois un peu de façon théologique des dispensations. Il y avait une période de l'histoire où il se passait ceci, une période d'histoire où il y a autre chose, les différentes alliances, etc. Et maintenant, nous sommes, jusqu'à présent, c'était différent. Jésus dit, en ce jour, maintenant, commence une ère nouvelle. L'ère où nous pouvons faire quoi ? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Maintenant, vous pouvez demander et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est nouveau. Ça n'existait pas de la même façon. C'est pourquoi certains, en voulant bien faire, en utilisant même des prières, des psaumes, sont des fois à côté de la réalité, de la nouvelle réalité qui est la nôtre en Christ. Comprenez ? Si vous avez un vieux psaume, entre guillemets, je n'enlève rien à la valeur de la parole de Dieu, mais d'une relation avec quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu comme nous pouvons le connaître maintenant, il pouvait implorer Dieu, se lamenter et demander de l'aide et essayer de trouver du secours. Ce n'est pas à nous de nous identifier à ce genre de personnes. Nous pouvons voir que ça, c'était une période difficile pour ceux qui n'avaient pas, comme nous, le privilège de la nouvelle alliance et de ce que nous venons de lire à l'instant. Mais nous sommes dans une situation nouvelle. Donc, comment prier? Eh bien là, nous avons un modèle de façon de faire. Nous pouvons prier le Père dans le nom de Jésus. Mais maintenant, il vient quelque chose qui a très bien réussi, une ruse du diable, c'est qu'il a réussi à paralyser une bonne partie du corps de Christ parce qu'il focalise sur les prières qu'ils veulent faire à Dieu. Nous sommes appelés à prier, c'est vrai, mais ensuite à agir. D'accord ? Si on n'en reste que à prier, on demande à Dieu, on demande à Dieu, on demande à Dieu, et on ne se rend jamais compte quand vient le moment où il nous a donné et nous devons agir sur ce que nous avons reçu par la foi. Et à cause de ça, il y a une grande inefficacité dans le corps de Christ. Il y a des gesticulations totalement inutiles. Il y a des gens qui passent pour des gens de prière. Ils perdent du temps. Ils sont pendant des heures à faire des choses qui ne servent à rien. Ils tournent en rond. Une fois qu'on a demandé au Père dans le nom de Jésus, on a besoin de lui répéter combien de fois jusqu'à ce qu'il réponde ? Zéro. Une seule fois suffit à Dieu. Vous croyez qu'il n'a pas enregistré ? Vous croyez qu'il est un peu sourd, qu'on a besoin de lui répéter ? Ou vous croyez qu'il va changer de sentiment ? Non. Après vient autre chose. Une fois qu'on a demandé le Père au nom de Jésus, vient autre chose. Vient le moment de l'action. Et ça, c'est des fois un petit peu difficile pour certains à réaliser. Mais qu'est-ce que nous avons besoin de faire ? Nous avons besoin d'imiter ceux qui ont vécu dans la même révélation et dispensation que nous, c'est-à-dire les apôtres et les disciples. C'est là que nous voyons les actes des apôtres et les épîtres, comment est-ce qu'ils agissaient. Actes chapitre 4, versets 29 et 30. Je pense que ça peut bousculer certaines conceptions d'une bonne partie du corps de Christ, mais nous en avons besoin parce qu'on est en train de ne pas accomplir les œuvres de Dieu. On est en dehors des capacités que Dieu nous a données. Nous devons utiliser le nom et réaliser à quel point cela peut changer la situation. C'était donc le contexte où les apôtres étaient menacés, mais ils ne se sont pas laissés impressionner et ils prient. Alors voilà qui est intéressant, de voir comment les apôtres priaient. Ils priaient « Maintenant Seigneur, vois leur menace, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Le fait qu'il y ait des miracles et des prodiges n'était pas détaché de l'action des apôtres. L'action des apôtres, par la prédication, par ce qu'ils faisaient dans le nom de Jésus, était ensuite suivie des signes. Mais en aucun cas, on avait d'un côté les apôtres et très loin ailleurs Dieu, et puis il y avait des actions qui étaient différentes. Il y a au contraire, nous sommes appelés à être des co-ouvriers avec Dieu. Apprendre à collaborer avec lui. Nous n'avons pas besoin de croire que Dieu est en quelque sorte celui qui nous résiste et puis nous on résiste à Dieu, une espèce de bras de fer. Non, Dieu désire encore plus que vous ce que vous désirez obtenir de lui. Je ne parle pas de désir insensé ou contraire à la parole de Dieu, je parle de choses légitimes, comme par exemple ce que nous disons de la bonne santé. Donc, où dans la Bible voyons-nous des personnes, disciples ou apôtres, qui prient « Père, guéris cette personne au nom de Jésus ». Des fois, j'ai même des gens qui rajoutent « s'il te plaît », quoi. Quand c'est plus poli, ça passe mieux. On n'a pas de « s'il te plaît ». Le « s'il te plaît », il faut le chercher d'abord, s'il plaît à Dieu d'agir d'une façon ou d'une autre. Le « s'il te plaît », on l'a résolu dans notre enseignement sur la volonté de Dieu. Une fois qu'on connaît la volonté de Dieu, on sait ce qui lui plaît. Alors, on agit d'après cette parole. Donc on ne voit pas, vous ne trouverez pas, vous ne trouverez aucun exemple où les disciples ont agi de cette façon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont obéi à ce que Jésus leur avait donné comme ordre. Ils ont agi et ils ont utilisé le nom de Jésus. Vous voyez, le nom de Jésus est un privilège pour nous et pour vous. Si vous ne l'utilisez pas, non seulement c'est tant pis pour vous, mais en plus, vous êtes en état de désobéissance. Parce qu'il vous a dit de le faire. Ce n'est même pas une option. Nous devons le faire. C'est notre responsabilité. C'est notre mandat. Un mandat, c'est quelque chose, on est envoyé pour faire quelque chose. On a été mandaté par quelqu'un. Il nous a dit, moi je m'en vais, il l'a dit aux disciples, mais il nous l'a dit à tous. Moi je m'en vais, et vous maintenant allez et faites en mon nom. Nous devons le faire. Ce n'est pas une option. Nous devons donc apprendre, il y a une part pour la prière, demander au Père au nom de Jésus, comprendre quelle est sa volonté. On voit les apôtres comment ils ont prié. Il y a eu un temps de préparation. Je pense que c'est important pour nous aussi, sinon au bout d'un moment on croit qu'on est des Superman et qu'on peut utiliser le nom de Jésus comme on veut, n'importe comment, et on ne veille pas sur son cœur. Donc il faut qu'on apprenne, il y a une interdépendance entre Dieu et nous, et le nom de Jésus ne va pas marcher tout seul si nous on a cassé complètement notre relation avec Dieu. Mais en même temps, il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas dans une situation où on essaye de convaincre Dieu de faire quelque chose. Mais il y en a un autre qui doit être contraint et convaincu, et c'est l'adversaire. Le diable est présent. Et dans ce contexte, nous revenons dans Jean 14. Jean 16 et Jean 14 se ressemblent, vous allez le voir, mais c'est tout de même pas la même chose. Dans Jean 14, 12, il nous est dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » J'ai dit bien que ça ressemble à Jean 16, c'est totalement différent dans l'application. Dans Jean 16, nous sommes dans un contexte où on prie le Père dans le nom de Jésus. D'accord ? On a compris ça ? Dans Jean 14, on est dans un contexte où on utilise le nom de Jésus pour demander quelque chose. Et le terme est même plus fort. Demander veut dire littéralement exiger quelque chose. Mais cette fois-ci, on n'exige pas de Dieu, mais on exige du diable. Et à ce moment-là, Jésus dit... Si vous exigez quelque chose du diable, je le ferai. Ça veut dire, je me tiens avec vous parce que vous avez utilisé mon nom et je vais appuyer votre demande ou votre ordre. C'est ça que ça veut dire. Et quand cette opération aura lieu, c'est-à-dire, nous avons compris, il y a une situation qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il y a une situation où Dieu veut intervenir. Il veut intervenir par moi. Il m'a donné le nom de Jésus. Et maintenant je le fais, j'utilise ce nom. Et à ce moment-là, si j'étais tout seul, pas grand-chose ne se produirait. Mais je ne suis pas seul, parce que Jésus a dit, si vous le demandez en mon nom, je le ferai. Ça veut dire immédiatement, à ce moment-là, Jésus se tient à mes côtés, il se tient derrière cette demande, et le diable est obligé de lâcher. Et conséquence, le Père est glorifié. Ce n'est donc pas une situation ici de prière. Sinon, nous ne pourrions pas utiliser le mot exiger. On n'a exigé rien du tout de Dieu. On a tout reçu par grâce. On a une attitude plutôt de dépendance et d'humilité. Mais par contre, nous ne devons faire aucun sentiment avec l'ennemi. Et on n'a pas besoin de le ménager parce qu'il n'a pas non plus aucun état d'âme pour vous. Et si vous le laissez tranquille, il ne vous laissera quand même pas tranquille. Parce qu'à un moment, il y avait aussi souvent cette habitude dans certaines parties du corps de Christ. Oh, si tu t'engages trop pour Dieu, tu vas avoir une conséquence que le diable va t'attaquer. De toute façon, il va attaquer qui il pourra. Il rôde, il cherche qui il peut dévorer. De toute façon, il va le faire. Il va chercher à détruire, égorger, dérober. Il va le faire. Donc, ne lui donnons aucun accès et n'ayons pour lui aucune pitié. C'est une guerre à mort, de toute façon. Donc, mais nous avons le nom de Jésus qui le fait céder. Donc, le corps de Christ doit apprendre à donner des ordres. Il doit apprendre à exiger. C'est ça notre privilège. Mais bien sûr, pour un bébé en Christ, c'est difficile du jour au lendemain de se retrouver dans cette position. C'est pourquoi ce message... N'importe qui peut invoquer le nom de Jésus, mais on se rend compte qu'il faut un petit peu de pratique pour avoir l'assurance, l'audace de faire ces choses. Et c'est pour ça que les disciples, vous rappelez, acte 4, ils ont prié, « Seigneur, donne à tes serviteurs l'audace. Donne-leur la hardiesse. » C'est ça dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de plus de puissance, ou plus d'amour, ou plus de je ne sais quoi. Nous avons besoin de plus d'audace et de hardiesse, d'oser le faire. Donc, apprenons à donner des ordres. Les disciples le faisaient. Vous voulez des exemples? Acte 16. C'est l'épisode où il y avait le diable qui harcelait Paul et Silas. Partout où ils allaient, il y avait une servante qui était possédée d'un esprit, et puis qui parlait et qui disait, voilà, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Ça semble être bien, on a même quelqu'un qui vous fait de la pub, mais en réalité, personne n'aime avoir un mauvais esprit qui vous accompagne partout où vous allez, même si apparemment c'est bon. Elle fit cela pendant plusieurs jours et Paul était fatigué de ça. Fatigué, ça veut dire ça suffit, j'en ai assez. Il se retourne et dit à l'esprit, remarquez pas, bien, il n'a pas dit, Père, dans le nom de Jésus, je te demande de chasser cet esprit de cette personne. Je le dis, vous ne le trouverez pas, cette façon de faire. Il a dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il a parlé à l'esprit lui-même. Il nous a dit, il sortit à l'heure même. L'heure même, ça veut dire que c'était quelque chose d'immédiat. Il n'est pas dit instantané. Des fois, ils essaient de rester un peu dans la maison et ils essayent encore de voir est-ce qu'on va changer notre attitude. Vous voyez, si vous donnez un ordre, mais que vous êtes hésitant, peut-être quelqu'un essaye d'en prendre avantage. Tous les parents savent ça. Donner un ordre à un enfant, ben, il y a une période où un enfant cherchera à tester votre position. Si vous n'êtes pas ferme, s'il sent une fragilité, s'il sent que vous êtes hésitant, que vous allez peut-être changer de votre façon de faire ou de dire, il va essayer d'en profiter et se dit bon, s'il change d'avis, j'ai gagné. Donc il faut rester ferme. Et là, c'est dans un autre contexte, mais il y a un peu le même principe. C'est que nous devons rester dans la même position. Et nous devons apprendre non seulement à donner des ordres, mais apprendre à faire équipe avec Dieu. Je l'ai dit, nous sommes co-ouvriers avec lui. C'est dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu dans son champ. C'est quand même merveilleux que Dieu ait mis ça dans sa parole. Ça nous honore. Vous ne trouvez pas que ça vous honore d'être élevé? C'est ça, être assis avec Christ dans les lieux célestes. Il vous a élevé auprès de lui pour travailler avec vous. Marc 16, 20 dit, le Seigneur travaillait avec eux. Et Marc 16, c'est justement quand il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, voilà tout ce qu'ils feront. Et comme conclusion, quand vous utilisez le nom, il est dit, le Seigneur travaillait avec eux. Chose importante aussi, quand on apprend à faire équipe avec Dieu, on va là où il nous dit d'aller. On peut faire certaines choses parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais on ne peut pas aller n'importe où, faire n'importe quoi et penser, Dieu est avec moi. Parce que si Dieu ne vous y envoie pas, vous n'êtes peut-être pas prêt à affronter certaines situations. C'est là que nous avons besoin aussi d'observer la parole de Dieu et de voir comment Jésus agissait. Lui était un homme rendu semblable à nous. Il avait perdu sa divinité. Il était venu comme un simple homme. Et il a dû apprendre à être conduit par l'Esprit. Il a dû apprendre à exercer sa foi. Il a dû apprendre à voir ce que le Père faisait. Et il l'exprime dans Jean, au chapitre 5 et verset 19. Il nous est dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis. » Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Pareillement. Donc ça nous oblige, entre guillemets, mais c'est une sauvegarde pour nous, ça nous oblige à cette dépendance avec Dieu. Toujours voir qu'est-ce qu'il fait, comment il agit. On ne voit pas, par exemple, bien que nous avons établi que la volonté de Dieu, ce serait que tous les malades et tous les infirmes du monde entier soient tous guéris. Mais on ne voit pas que Jésus, à la piscine de Bethesda, ait guéri tous les malades qui étaient autour de la piscine. On ne le voit pas. La Bible ne nous le dit pas. Elle dit qu'il était conduit vers une personne. Pourquoi ? Moi, je ne le sais pas. Et la Bible ne le dit pas. Mais ça veut dire que ce jour-là, il y avait quelque chose qui allait se passer pour cet homme. Peut-être les autres n'étaient pas prêts. Peut-être on a parlé de certains obstacles, qu'ils attendaient quelque chose qui se passe au niveau de la piscine, mais ne pouvaient pas imaginer que Dieu était venu vers eux sous la forme de Jésus. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent expliquer. Mais Jésus n'a pas, à ce moment-là, guéri tous ceux qui étaient autour de cette piscine. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'aller exactement au même rythme que Dieu nous dirige. Ce nom, le nom de Jésus, nous appartient. Il nous a été donné. Dites-le avec moi, il m'appartient. Il m'a été donné. Le nom de Jésus est à moi. Jésus est à moi et je suis à lui. Dans Actes 3:6, le passage qu'on avait lu tout à l'heure de Pierre et Jean à la belle porte du temple, qu'est-ce qu'il a dit Pierre ? Ce que j'ai, je te le donne. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est simple. Beaucoup essayent. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous ne pouvez pas le donner. Vous ne pouvez pas utiliser sa puissance. Mais qu'est-ce qu'il faut pour utiliser le nom de Jésus ? Un petit peu de foi. C'est l'ingrédient qui est nécessaire. Vous voyez, l'homme qui n'était pas avec le groupe des disciples de Jésus, pourtant utilisait le nom et ça marchait. Il avait foi dans le nom. Et certains n'ont pas le droit de s'en servir. Il ne leur appartient pas, parce qu'ils ne le connaissent pas. Et là encore, nous avons une illustration dans la Bible, peut-être bien connue par certains, mais je le lis alors pour ceux qui ne le savent pas. Acte 19, verset 13, « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. » Remarquez bien, ils ont essayé. La foi, ce n'est pas essayer, ce n'est pas la foi. Quand on essaye, il y a le doute, on prévoit l'échec. Je vais essayer. Essayer, ça veut dire qu'on n'a pas d'assurance. Tout à l'heure, on a parlé de hardiesse et d'assurance. On n'essaye pas. On le fait ou on ne le fait pas, mais on n'essaye pas. Ça ne marche pas. La preuve, c'est que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. C'était le vrai Jésus, c'était le bon. Mais ils n'avaient pas le droit d'utiliser le nom. Ils n'appartenaient pas à Jésus. Ils n'avaient pas reçu ce que Pierre et Jean ont reçu. Et donc ils ne pouvaient pas le donner. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Tout le bagage, vous voyez, religieux, théologique, position, tout ça ne sert à rien. N'importe qui, quelqu'un qui n'a pas d'éducation, un enfant peut utiliser le nom de Jésus avec puissance. Et quelqu'un peut avoir des diplômes, il peut avoir des doctorats en théologie, il peut avoir 30 ans de conversion, s'il n'a pas la foi, s'il n'a pas rien du tout, s'il ne croit pas que le nom de Jésus est puissant, rien ne se passera. Et là, on ne peut même pas dire rien ne s'est passé, parce qu'il s'est passé quelque chose. Il nous a dit, l'esprit malin s'est manifesté. Et il a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alors quand je vous disais d'avoir de l'honneur pour le nom de Jésus, là on peut même parler aussi d'une certaine crainte respectueuse en disant c'est précieux, ce qui est sanctifié est précieux, on ne le fait pas avec légèreté. Certains, donc, n'ont pas le droit de s'en servir. Ça ne marchera pas. Nous avons ce droit. Nous l'avons reçu. Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et maintenant, allez, et en mon nom, voilà ce que vous devez faire. » Certains le font aussi, et Dieu honore tout de même sa parole. Je pense à Matthieu 7, qui nous explique ce principe, qui, je pense, doit choquer certaines personnes dans leur théologie, parce que ils pensent des fois que Dieu agit un peu comme une récompense pour bon comportement. Si vous êtes bien conduit, si vous êtes sage, si vous avez été comme je veux, alors vous aurez un peu comme une gratification, comme un bonbon qu'on donnerait à un enfant. Vous aurez un miracle, où vous aurez une réponse, où vous aurez quelque chose. Mais ici, ça bouleverse complètement cette idée, parce que Jésus dit, Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Vous imaginez ? Jésus ne dit pas à ce moment-là, non, ce n'est pas vrai, vous n'avez pas prophétisé en mon nom. Il ne dit pas, non, ce n'est pas vrai, vous n'avez pas chassé les démons. Il ne dit pas, non, ce n'est pas vrai, vous n'avez pas fait des miracles. Si, ils ont eu lieu dans le nom de Jésus. Mais il dit, mais pour vous, ça ne vous sert à rien. Vous avez peut-être fait des grandes choses en mon nom, mais vous, je ne vous connais pas. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, si vous voulez plus de détails pour comprendre comment ça fonctionne, ça, pourquoi il est ainsi, il en est ainsi, comment est-ce qu'on peut utiliser le nom de Jésus sans pourtant connaître le Seigneur lui-même tout en étant dans l'iniquité? Eh bien, la réponse, elle est, bien sûr, toujours dans la parole de Dieu. Il faut juste le trouver. Alors si Dieu nous fait la grâce de nous montrer, ben, on a des fois une réponse. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout, mais il y a une réponse. Et cette réponse, elle est dans 2 Timothée, versets 11 et 12. 2 Timothée 2, versets 11, 12 et même 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Certains ont mal compris, ils ont dit, même si je suis infidèle, même si je fais tout de travers, même si je fais que ce qui me plaît, Dieu est tellement bon, il va quand même me faire du bien. Ce n'est pas ce que dit ce passage. Le passage dit, si nous sommes infidèles, Dieu, lui, n'est pas comme nous. Lui, il est d'une autre nature. Il est fidèle, il ne se reniera jamais. Ça veut dire qu'il va toujours honorer sa parole. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que je peux me permettre d'être infidèle parce que lui est fidèle. Non, ça veut dire, lui est fidèle, sa parole, il va toujours l'honorer. Si quelqu'un veut agir en son nom pour faire un miracle, il se peut que le miracle se produise et Dieu va honorer son nom et sa parole. Mais pour la personne, ça ne lui servira à rien du tout. Il aura été un instrument entre les mains de Dieu, c'est vrai, mais pourquoi s'en glorifier? On a des exemples dans la Bible où il y a une ânesse qui a été un instrument entre les mains de Dieu. Elle a parlé, c'est un miracle. Elle a parlé en son nom, on peut dire. Mais ce n'est pas pour autant que vous voudriez envier sa destinée. Parce que ce n'est pas un être spirituel éternel créé à l'image de Dieu. Pourtant, Dieu s'en est servi. On voit dans la Bible qu'il y a des gens qui ont prophétisé, qui ont été saisis par l'Esprit de Dieu. Des fois, c'était des païens. Des fois, c'était des gens qui ne vivaient pas du tout comme le Seigneur attendait. Et certains peuvent être, justement, avoir été utilisés pendant un temps. Ils ont été un canal dont Dieu s'est servi, mais pour eux-mêmes, cela reste, comme on l'a vu à l'instant, des ouvriers d'iniquité que Jésus ne connaît pas. Il ne les connaît pas et dans ce sens, il n'a pas de responsabilité à leur égard. Donc, le miracle n'est pas un diplôme de sainteté. Ce n'est pas parce que Dieu a agi au travers de quelqu'un que dans toute sa vie, tout ce qu'il fait, c'est bien et qu'il a l'approbation de Dieu. Ce sont deux choses différentes. Le miracle est le résultat de notre foi mise en action. C'est le résultat de Dieu qui honore sa parole. La sainteté, c'est ce que nous voulons laisser Dieu produire en nous. D'abord, il y a une première sainteté quand on se donne à lui, et après, il y a aussi une sainteté de vie. Nous avons donc la capacité de faire usage de ce nom, et nous devons le faire. Donc, rappelons-nous, ce n'est pas à force de parole que ça va marcher, en répétant. Je me rappelle d'une anecdote, un pasteur m'a raconté qu'il était dans une réunion et il y avait des personnes, entre autres, qui croyaient qu'une personne pouvait se transformer en animal. Il y a des choses dans la sorcellerie et dans la magie qui des fois peuvent être étonnantes, mais donc à un moment donné, un chrétien visiblement mal enseigné, mal affermi, était en train de donner son témoignage pour Christ. Et pendant ce temps, a passé un insecte devant lui et il dit, c'est quelqu'un de ma famille qui est passé là pour me tourmenter. Et vous avez alors eu un certain nombre d'hommes de foi qui étaient en train de dire au nom de Jésus et le petit insecte était coincé dans un endroit de la salle. Je veux dire, d'où viennent ces choses? Où croit-on finalement exercer notre autorité spirituelle? Eh bien, si vraiment un insecte nous dérange, il y a des façons de s'en débarrasser, mais il ne faut pas se laisser détourner de l'usage du nom. Nous avons reçu le nom de Jésus pour faire des choses plus importantes à la gloire de Dieu que de se laisser détourner. On n'est pas appelé ni à faire des perroquets, répéter 1000 fois au nom de Jésus ne produira pas plus le miracle, ni à augmenter le volume sonore. Ce n'est pas en criant que les démons sortent plus qu'en parlant normalement. Des fois, le fait d'avoir une voix plus forte nous donne plus d'assurance, on veut vraiment exprimer ce qu'on croit. Ça, c'est vrai, mais on n'a pas besoin de crier. Dans Exode 20, il nous est dit, dans les 10 commandements, que nous ne devons pas utiliser le nom du Seigneur en vain. Donc, sachons l'utiliser de la bonne façon et au bon moment, mais ne pas nous gaspiller et user notre salive pour rien, pour répéter, pour crier, nous époumoner, et croyant que nous aurons plus de résultats. Ce n'est pas comme ça que le nom de Jésus marche. Il est puissant en lui-même parce qu'il est attaché à la personne de Jésus. Le fait aussi de dire des choses à la légère, par des jurons par exemple, devrait bien sûr avoir complètement disparu du langage chrétien. On ne dit pas à la légère nom de Dieu ou des choses comme ça. Ça n'existe pas pour les chrétiens. On se laisse renouveler dans notre intelligence et on ne méprise pas le nom de Jésus qui nous a été donné. On ne le dit pas à tort et à travers. Non, même pas « Oh mon Dieu » à tout bout de champ. Non, soit on invoque Dieu et on lui parle, ou alors on ne le fait pas. Mais on ne l'utilise pas juste pour meubler notre conversation ou parce qu'on a des habitudes de le dire. Non, nous voulons honorer le nom et comprendre qu'il a la puissance de ce nom. Parce que on récolte ce qu'on sème avec le mauvais usage du nom de Jésus. Il y aura des conséquences aussi, des conséquences sur nous, sur notre être intérieur. Si on méprise le nom, ben après il ne faut pas vouloir non plus attendre que la puissance qui est dans le nom va se manifester pour nous. Et puis il y a un bon usage, bien sûr, on va terminer par là, c'est de Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, il nous faut agir, nous avons à agir. On a vu ensemble, chasser des démons, ils chasseront des démons, ils ne demanderont pas à Dieu de les chasser, ils ne demanderont pas au démon s'il veut sortir s'il vous plaît, ou s'il veut partir, ils chasseront, ça veut dire ils les envoient au loin. Il y a aussi des moments, et là il y avait une illustration qui était importante aussi pour nous. On a vu qu'on veut travailler avec Dieu, être co-ouvrier avec lui. Il y a des moments où quand on a fait ce qu'on savait faire, ou qu'on a fait ce qu'on pouvait faire, utiliser le nom de Jésus, il faut maintenant le laisser agir et venir en scène. Il y a un moment alors pour agir et puis de nouveau s'effacer. Vous comprenez ça ? Et simplement, par l'invocation du nom de Jésus, laissez Jésus venir en scène et agir. Il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous ne pouvez pas simplement dire, voilà, je parle. Et puis, mais quand vient le moment où on laissera Dieu agir? Dans ce fameux passage de la parole de Dieu dans 2 Chroniques 20, où le peuple était devant une grande menace d'une armée, et qu'il y a eu ce temps où la louange a précédé l'armée, vous vous rappelez de ça? Et il nous est dit, ils n'ont pas combattu, ils ont simplement laissé Dieu entrer en scène par la louange. Donc il y a un moment où on peut aussi amener Jésus à agir en louant son nom, en l'invitant à se manifester et puis le laisser faire. Et cette illustration, c'était, il y avait une situation difficile pour un enfant qui était gravement malade, et puis il y avait des convulsions, il y avait toutes sortes de choses, donc il y avait vraiment une urgence, et donc les gens ont couru chez le pasteur, et il n'était pas là. Alors sa femme était là, et elle est allée rassembler plusieurs chrétiens, ils étaient dans la chambre avec l'enfant, et puis ils ont fait tout ce qu'ils savaient faire, prier, donner des ordres, utiliser le nom de Jésus, etc. Et rien ne semblait se faire. Et à un moment donné, l'épouse du pasteur a eu cet élan conduit par l'Esprit de Dieu, de simplement commencer à dire Jésus, louer son nom. Elle dit Jésus, et puis alors les autres ont commencé à réaliser, ah ben qu'est-ce qu'elle fait, et tout le monde a commencé à louer Jésus, et à ce moment-là, l'enfant a commencé à se calmer, et il y a une action du Saint-Esprit pour la délivrance de cet enfant. Et donc ils étaient tout contents, ils sont arrêtés. Au bout d'un moment, ça a recommencé. Alors, ils ont de nouveau fait tout ce qu'ils savaient faire, prier, combattre, utiliser le nom, et c'est là qu'ils se sont rendus compte, mais attends, comment ça avait marché tout à l'heure? C'était quand on a amené la présence de Jésus en invoquant son nom. Alors ils ont refait ça et ils ont vu que ça se faisait de nouveau de la même façon. Donc je veux dire, il faut savoir quand nous sommes en train d'agir selon l'action de Dieu pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre et quand nous sommes en train d'essayer de produire par la chair parce que nous savons dans notre tête et que nous voulons forcer la chose. Et ça ne marchera pas. Nous avons quelque chose de mieux que le forcing, c'est le repos de la foi. Et donc, amenons Jésus à se manifester. Romains 10, 17 et d'autres passages aussi disent « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Si vous voulez, la délivrance, amenez la présence de Dieu par l'invitation. Dites « Oui, Seigneur, on fixe nos regards sur toi, c'est toi qui agis. » Hébreux 13 nous dit « Je vais le lire. Ça illustre aussi ce que je viens de dire à l'instant. Verset 15. Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Confesser, qui déclare son nom. On déclare le nom de Jésus, qui confesse son nom. Et Colossiens 3, 19 aussi, il nous est dit, voilà ce que nous devons faire. 3, 19. Non, c'est pas ça. C'était faites tout. 17. Et quoi que ce soit que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Donc, une louange continuelle pour le nom de Jésus, la personne de Jésus. C'est la meilleure façon de rentrer dans cette dimension de la puissance qui est dans la foi, dans le nom. Et la guérison, je crois qu'on en verra beaucoup plus si on commence à mettre ces choses en pratique. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.